la boîte vocale.
Je ne trouve pas scolaire dans vos contacts. Je ne trouve pas scolaire dans vos voulez-vous appeler.
Est-ce que ça marche?
Couturière, secrétaire, ouvrière. Nombre de petites mains, qu'elles soient l'outil de travail par excellence dans l'accomplissement de tâches répétitives ou dévaluées, ou qu'elles désignent métonymiquement celles qui les agitent, ont contribué et contribuent, avec une visibilité variable, au développement de la culture et du savoir. Aujourd'hui, nous explorons le travail invisibilisé dans les modèles de collaboration scientifique et posons la question : à qui doit-on vraiment la production de la connaissance ? Bienvenue à
Scolaire. Théorie dysfonctionnelle.
Une balade de diffusion qui nous explique
que la théorie ne sert à rien,
mais qu'elle a le mérite
de nous faire perdre beaucoup de temps.
Je suis Marcello Vitali Rosati et nous recevons aujourd'hui Margot Mélé pour nous parler de petites mains. Mais d'abord, Margot, veux-tu te présenter ?
Bonjour, je suis Margot Mélé. Je suis doctorante en recherche et création à l'Université de Montréal, au département de littérature de langue française. Et je suis la coordinatrice scientifique de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques.
Bienvenue Margot, merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, qu'est-ce que les petites mains ? Est-ce que tu pourrais nous donner une définition théorique ? D'abord une définition théorique simple et ensuite une définition théorique complexe de cette notion ?
Alors, les petites mains, pour l'histoire, moi, c'est une expression que déjà j'ai entendue dans le cadre d'une discussion avec un chercheur en édition numérique et qui m'a beaucoup marqué pendant un an. La personne en question avait parlé pour désigner une éditrice qui travaillait dans son équipe, l'avait désignée par le terme « les petites mains sous la table ». Et les petites mains, c'est une expression qui est entrée dans le langage courant qu'on utilise généralement pour désigner des individus subalternes, on va le dire comme ça, qui vont avoir à charge des tâches répétitives, minutieuses et surtout des tâches qui vont être un peu, qui vont être dénigrées sur l'échelle du savoir. Historiquement, au XIXe siècle, les petites mains, c'était les tisseuses, donc celles qui travaillaient dans les entreprises de tissage. Elles étaient aussi appelées cousettes. Et il y a encore l'idée aujourd'hui, même en édition numérique, que ces petites mains ne participent pas activement à l'élaboration, à la construction du savoir. Alors, ce qui m'a marqué moi, dans la formule d'origine, c'était surtout la suite qui déroge un petit peu à ce qu'on entend. L'expression « sous la table », c'est un peu redondant déjà avec l'expression des petites mains. Et si en fait, l'idée des petites mains, c'est que si on conçoit le savoir comme une échelle, il y aurait les petites mains qui seraient en bas de l'échelle à tenir les premiers barreaux et les auteurs des postes plus haut placés qui seraient en haut de l'échelle et qui auraient de moins gros barreaux à tenir. L'idée des petites mains que j'essaye de défendre aussi et de réfléchir, c'est l'idée que ces petites mains-là, si elles sont en bas de l'échelle, c'est elles qui tiennent la structure, en fait. Et c'est celles qui permettent aux auteurs de ne pas tomber. Et ça rassemble, en fait, une série d'acteurs, que ce soit les relecteurs, les éditeurs, éditrices, souvent aussi ce qu'on va ranger comme le terme de secrétaire.
Si je comprends bien, du coup, tu veux questionner l'idée selon laquelle il y aurait une hiérarchie claire et nette dans la production du savoir, dans laquelle il y aurait à haut ceux qui pensent. Et donc très souvent, j'entends dans tes paroles, très souvent des hommes. Et puis ceux qui font des activités concrètes et matérielles, mise en page, correction, révision, qui en fait ne contribueraient pas à la production de la pensée, mais ferait des actions secondaires et finalement qui n'ont aucun sens, qui ne produisent rien au niveau des sens, mais juste des petites choses matérielles, c'est ça ?
Oui, c'est ça, l'idée de penser que la pensée est hors des petites mains, moi, me semble à remettre en question. Et il y a un exemple assez fameux que j'aime aussi beaucoup citer, qui est celui d'un des premiers projets cité au début des humanités numériques, qui est le projet de Roberto Busa, qui était le projet d'une indexation des œuvres de Thomas d'Aquin. indexation qui passait par l'encodage de cartes perforées. Et ce projet, qui s'est fait aussi en collaboration avec IBM, a été réalisé concrètement par des ouvrières qui ont encodé donc les cartes perforées une à une. Ces ouvrières, il y a des travaux d'archives qui sont menés notamment par des chercheurs comme Mélissa Terrasse qui essayent de retrouver les noms de ces ouvrières qui sont passées complètement dans l'oubli. Mais je préfère les reciter ici. Il y a Livia Canestraro, il y a Rosetta Rossi Bertoli, il y a Gisa Crosta qui ont fait partie de ce projet. Et ce qui est intéressant à citer dans ce projet, c'est qu'on donne l'autorité et l'origine de ce projet, on la donne à Roberto Busa, mais en fait, ce qui a pensé le modèle du projet, c'est principalement ses ouvrières. Et Roberto Busa lui-même s'en est rendu compte. Marcello, tu citais à un moment dans une de tes conférences le moment où Roberto Busa a souhaité, ou en tout cas a voulu, virer ou remplacer une de ses ouvrières parce qu'il s'est rendu compte que son travail d'encodage des cartes perforées était en train de modifier, en tout cas de faire évoluer la pensée qu'il avait du projet. Bah, c'est un petit peu ça qu'il y a dans les petites mains, c'est de considérer que en fait, c'est elles qui viennent concevoir le modèle de pensée, plus que la personne qui va proposer le projet et le diriger.
Donc ce n'est pas pour toi juste avec cette idée de petites mains, l'idée ce n'est pas seulement de créditer des subalternes, mais c'est plutôt de pointer le fait que c'est dans ces endroits qui ont été à tort considérés comme moins importants que la pensée s'est produite. Donc la pensée n'est, en réalité, dans le cas de Roberto Busa, la question n'est pas simplement de se rappeler aussi des noms des ouvrières, mais c'est plutôt qu'on s'est rendu compte que ce sont justement ces ouvrières qui ont produit la pensée, qui ont produit les modèles épistémologiques, plus peut-être que la seule personne dont on se rappelle le nom, qui en réalité était plus un gestionnaire qu'un penseur.
Oui, c'est totalement ça.
Très bien, alors... Est-ce qu'on commence à voir déjà quelques petits exemples de petites mains dans ce que tu nous as raconté dans cette première définition? Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques autres exemples de petites mains et peut-être aussi des contre-exemples, quelque chose qui n'est pas des petites mains?
Alors j'aimerais commencer par le contre-exemple. J'ai cité des statuts comme relecteur, lectrice, éditeur, éditrice, il y en aurait d'autres à citer, mais au-delà de citer un statut ou une profession en particulier, je vais utiliser ces contre-exemples pour parler vraiment du modèle ou d'un nouveau modèle de savoir que j'essaye de penser au travers du principe des petites mains. Et alors, ce que ne sont pas les petites mains, c'est un carnaval. Alors, ça peut paraître étonnant, mais le carnaval, par principe, c'est un moment défini où il va y avoir un renversement dans la société. Où on va permettre aux petites gens, on parle toujours de petites hein, dans un terme de dénigrement, mais on va permettre aux petites gens d'avoir l'autorité, d'avoir le pouvoir pendant un moment déterminé, de pouvoir brûler soit le roi directement, soit une figure du roi, et donc de renverser cette structure hiérarchique. Alors je peux citer aussi un exemple d'un objet culturel assez récent. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle... la version française, c'est Sans filtre, mais le titre en anglais, c'est Triangle of Sadness, où justement, c'est une grande réflexion sur le rapport hiérarchique, le rapport de statut aussi beaucoup porté par un principe capitaliste. Alors, ce film a beaucoup de peut-être de raccourcis ou de problèmes, mais ce qui est intéressant dans sa narration, c'est qu'à un moment, justement, des individus qui font partie des petites mains, qui font du travail de main-d'œuvre, qui font de la masse besogne, vont se retrouver au pouvoir, vont se retrouver à la tête des individus qui, au départ, étaient en plein pouvoir parce qu'ils avaient justement le monopole de l'argent et la richesse. Et ce renversement-là, en fait, on se rend compte qu'il n'est pas du tout périn, déjà parce qu'il ne peut pas tenir, mais aussi parce qu'il mène d'un extrême à un autre. Et c'est pour ça que je dis que les petites mains, c'est pas un carnaval, dans la mesure où il s'agit pas de mettre les petites mains au pouvoir, de leur donner toute l'autorité sur le savoir et de potentiellement arriver à d'autres extrêmes ou à la reproduction de systèmes de dévalorisation-valorisation qu'on a aujourd'hui, mais dans l'autre sens. Ça, ce serait le premier, en tout cas un contre-exemple que j'aimerais proposer. pour l'exemple, alors j'ai eu un peu plus de mal à en trouver un, aussi parce qu'il me semble que l'idée des petites mains s'approche un peu, je ne sais pas si c'est correct de le dire quand on est en Amérique du Nord, mais d'un principe plus communiste ou anarchiste du savoir. C'est un peu un, moi tel que je le conçois, c'est un peu un hack sans l'intention de nuire, c'est-à-dire il s'agit de produire un changement dans le principe même de l'émergence de la pensée et du paradigme scientifique pour corriger un peu un problème qu'il y a entre les statuts et qui gêne une collaboration scientifique surtout. C'est un peu, moi tel que je le vois, ça vise à un peu hacker ou craquer la science pour montrer qu'il y a une faiblesse à un endroit et aussi pour concevoir que le processus scientifique, le processus de production scientifique, c'est pas du tout une boîte noire. Qu'au contraire, les schémas de production, que les gestes de production et de structuration de l'information, c'est ça, en fait, qui produit le savoir, et c'est pas du tout l'imaginaire du génie tel qu'on peut l'avoir, qui est seul dans sa tour d'ivoire. Donc ça serait l'exemple que j'aimerais proposer, c'est celui d'un hack de la boîte noire tel qu'on pourrait concevoir la science.
Et je te posais la question, qui sont ces petites mains? Tu as parlé de secrétaires, d'éditrices, très souvent en féminin. Donc évidemment, la question du genre joue un rôle important dans cette hiérarchisation. Il me semble d'entendre dans tes mots l'idée que, en fait, la hiérarchie vient même avant le travail. C'est-à-dire que c'est un travail de petites mains parce que ce sont des subalternes qui le font. Donc ce que tu proposes justement, ce n'est pas de renverser, mais de questionner la possibilité d'une hiérarchie. Au lieu que il ne faut pas juste inverser la hiérarchie, ça produirait une autre hiérarchie, c'est pas ça l'objectif. Mais du coup, est-ce que ces petites mains sont toujours des personnes? Ça, ce serait ma question. Ou il peut y avoir des petites mains au-delà? Je pense typiquement au fait d'inclure dans les dispositifs de production du savoir toute une série d'aspects techniques, économiques, environnementaux, matériels. Dans la hiérarchie que tu évoques, il y a très présente celle que moi j'aime appeler la rhétorique de l'immatérialité. Donc ce qui compte est toujours ce qui est immatériel. Et puis bon, changer une virgule, mettre en page, se soucier de la forme, ce sont des choses qui sont moins importantes. Est-ce que tu vois des petites mains au-delà de personnes ou... Si on parle des personnes, de quelles, est-ce qu'on parle toujours d'un certain type de personnes, des hiérarchies qui sont présentes dans les structures sociales?
Alors, je pense qu'il y a des statuts qui sont beaucoup définis et essentialisés par le principe de petites mains. Je pense justement à tout le personnel de l'administration, tout le personnel du secrétariat aussi. Après, je pense aussi que c'est pas figé. Je pense qu'on est toujours la petite main de quelqu'un et je pense que surtout... Dans le milieu scientifique, on va être amené à toujours à devenir, ou en tout cas à être à un moment, la petite main de quelqu'un, dans la mesure où c'est pas tant un statut ou un intérêt pour des tâches particulières de l'individu qui va le faire petite main que la demande en face qui va lui être formulée. Quand un auteur qui sait citer par cœur une ligne de Proust et savoir à quelle page se situe cet extrait, demande à quelqu'un pour autant de structurer cette référence de Proust, il y a justement une demande qui va produire, à mon avis, le principe de petite main, c'est-à-dire qu'il peut, lui, on ne va pas dire s'embarrasser, mais il peut trouver intéressant d'apprendre par cœur Proust et de connaître sur le bout des doigts l'œuvre de Proust au point de citer particulièrement un passage, mais par contre, il ne souhaite pas apprendre comment est-ce qu'on structure une référence pour le besoin de sa recherche personnellement. Donc, il y a aussi le fait de, et tu parlais de l'immatérialité, le fait de dénigrer aussi certaines tâches comme, en les considérant comme ne faisant pas partie de la recherche scientifique ou de l'intérêt scientifique ou de la production du savoir. C'est ça qui va créer les petites mains. Ce qui est intéressant aussi dans cette perspective de l'immatérialité, c'est que lorsque un auteur considère qu'il va juste demander un service à une petite main pour faire le travail qu'il n'a pas souhaité faire, en fait, il lui délègue une part du pouvoir sur son savoir. Et je pense que si ces personnes avaient conscience aussi un petit peu de ce que symbolise le fait de déléguer ce genre de tâches, il y aurait certainement une remise en question de leur processus et de leur façon de faire scientifique. Alors moi je prends beaucoup ce principe des petites mains, je le lis beaucoup aux théories féministes et à la question féministe aussi des environnements universitaires et scientifiques plus largement, mais aussi beaucoup du monde de l'édition numérique et des environnements numériques qui sont aussi beaucoup marqués au final par des figures très, très masculines, hein, le hacker, le développeur, l'informaticien, ça reste des figures qui sont masculines. Ce qui est étonnant quand on sait que ben justement ce milieu-là, au début, parce qu'il était considéré comme un milieu appartenant au tertiaire, était en fait un milieu où il y avait beaucoup plus de femmes qui aussi avaient des compétences de secrétariat, donc elles étaient aussi habituées à ce genre de tâches, des femmes qui étaient donc très présentes au début du numérique. Et à partir du moment où on a développé peut-être une aura ou une certaine scientificité de ce domaine, là on va avoir une diminution de la présence des femmes, en tout cas de la reconnaissance des femmes dans le développement de ce monde-là.
Tu parlais justement de numérique. Quel est le rôle, selon toi, qu'ont joué les environnements numériques dans la définition de ce que sont aujourd'hui les petites mains? C'est-à-dire, est-ce que quelque chose a changé? Tu disais, il y a toujours eu des petites mains, mais est-ce que les environnements numériques, en particulier, je pense au monde de l'édition, hein, qui t'intéresse au premier chef, est-ce que l'utilisation d'outils, technologies, plateformes numériques et chaînes éditoriales numériques a changé quelque chose?
Alors j'aurais peut-être une vision un peu pessimiste, mais moi j'ai l'impression que ça a reproduit beaucoup des schémas qui avaient cours avant. Je pense que pour autant, il y a des changements qui sont en cours et qui sont possibles. Mais il me semble que pour ça, il faut dépasser les figures qu'on nous martèle aussi dans la culture numérique. Et il faut aussi... Je pense qu'il faut repenser les dynamiques de collaboration homme-femme parce que, je parle aussi d'expérience, mais les formations informatiques pures et dures ont très peu de femmes, comptent très peu de femmes dans leur rang. Et il y a aussi une violence assez très sexiste et très marquée dans ces environnements-là. Donc le problème, c'est aussi qu'on a tendance à séparer beaucoup les capacités avec aussi une valeur un peu morale et un peu... On parle de capacité intellectuelle hein, en disant qu'une femme va pouvoir faire plusieurs choses et donc gérer toute la partie administrative ou la partie de coordination, tandis qu'un homme, lui, sera plus habilité à développer, à programmer, à faire du code pur et dur. Ça, je pense que c'est un cliché qu'on a encore aujourd'hui dans l'attribution des tâches en édition numérique. Et qu'il faudrait repenser aussi parce que, en fait, ça ne veut pas dire que les hommes sont pas capables d'apprendre des tâches de secrétariat ou que les femmes ne sont pas capables d'apprendre le code, mais c'est parce qu'on part de ce principe-là dans la structuration des équipes en édition numérique et dans la structuration, la répartition des tâches, les femmes elles-mêmes vont avoir du mal à rentrer dans ce milieu très sexiste aussi qu'est l'informatique et l'activité du code.
Merci beaucoup, Margot. Alors, comme tu le sais, le principe de fond de cette balade de diffusion consiste à penser que la théorie ne sert à rien, mais qu'elle a le mérite de nous faire perdre beaucoup de temps. C'est-à-dire, nous essayons de résister à l'idée que une théorie doit servir, une théorie doit être utile. Les sciences humaines ne sont pas là pour produire, pour s'insérer dans les systèmes productivistes, mais plutôt pour y résister. Alors, ma dernière question. En quoi le concept, donc la notion de petite main, ne sert à rien? Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quelle manière ces concepts, non pas nous aident ou nous est utile à, mais plutôt de quelle manière il nous fait dysfonctionner, de quelle manière les petites mains nous font perdre du temps?
Alors, les petites mains, moi je pense que c'est un trouble, ou en tout cas c'est causé un trouble dans la science, parce qu'il ne s'agit pas seulement de, on l'a déjà dit, hein, il ne s'agit pas seulement de repenser des systèmes de valorisation ou de repenser les systèmes de créditation qu'on a, par exemple, en édition numérique. On va pas faire... Enfin, ça servirait pas à grand-chose de produire des crédits sur une dizaine de pages pour citer absolument tous les acteurs qui ont participé à l'élaboration d'un texte. On arriverait avec ce que j'appelle le phénomène du générique de film. Les génériques de film, ils sont placés à la fin parce que les gens, ils sont plus intéressés à les regarder. Et les gens quittent la salle, généralement, dans les salles de cinéma, avant la fin du générique. Donc en fait, tous ces acteurs-là, ils ont beau être crédités, ils ne sont pas du tout perçus dans, dans le paradigme de production du film, par exemple. Donc pour moi, les petites mains, ça nous fait dysfonctionner ou ça nous fait perdre du temps parce qu'il s'agit pas seulement de repenser un savoir, des acquis qu'on aurait sur différents projets, en particulier des humanités numériques, mais il s'agit de repenser ce qu'on pense être le savoir et la production du savoir et comment on le pense aussi. Donc c'est un peu vertigineux aussi quand on pense que j'ai proposé cette interprétation, mais il n'y a pas de statut défini non plus. Dans les carrières universitaires, on va être amené à faire du travail de secrétariat qui ne va pas du tout être valorisé non plus, ou en tout cas qui va être pensé comme moindre dans ce que c'est que produire du savoir. Et je pense que, d'un point de vue peut-être plus personnel ou individuel à chacun, le fait de penser, d'avoir en tête ce trouble de la petite main quand on écrit, c'est aussi accepter de se déposséder un petit peu de son écriture. Moi, j'ai beaucoup pensé quand j'ai eu la chance de publier des articles. Je pense que j'ai mieux vécu ou j'ai vécu différemment l'expérience de publication et d'édition de mon texte quand j'ai compris qu'il fallait que je m'en dépossède. Accepter de le faire publier, c'est aussi accepter qu'il y ait justement des petites mains qui vont venir collaborer sur ce texte-là, qui ne va plus nous appartenir complètement. Et que c'est ça, de produire du savoir, c'est aussi accepter cette collaboration et accepter, c'est un peu une leçon d'humilité aussi, mais qui me semble importante, c'est accepter d'être parfois aussi intranquille dans ce qu'on va produire, dans ce qu'on va relire aussi. Moi, j'ai un exemple qui me suit depuis quelques temps, c'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est Nietzsche, qui était beaucoup connu pour avoir été un auteur à utiliser une machine à écrire, une machine d'écriture. Lui, il utilisait une machine à écrire ronde qui s'appelle une boule à écrire de Hansen. Et il s'avère qu'à un moment, dans son processus d'écriture, cette boule a cassé. Elle n'était plus utilisable. Et alors déjà, il s'est rendu compte que, il était dépendant de cette boule dans son écriture et dans son processus de réflexion. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un intermédiaire, ou en tout cas de quelque chose qui venait pallier la perte de son outil d'écriture. Alors, ce qu'a fait Nietzsche, qui... en plus, c'était à l'époque demi-aveugle et donc ne pouvait pas écrire lui simplement, c'est qu'il a engagé une secrétaire, dont on oublie toujours le nom, alors je la recite ici, qui s'appelle Röder Widerhold, et secrétaire qui a fait la rédaction, qui a donc pris en note ce que lui citait Nietzsche. Et Nietzsche s'est aussi rendu compte, comme Roberto Bouza bien après, que cette secrétaire participait de sa pensée et de l'élaboration de sa réflexion. Donc il y a une intranquillité et je pense que moi, quand je relirai Nietzsche, j'espère aussi pouvoir être intranquille et me demander qui est-ce que je suis en train de lire au fond. Est-ce que c'est vraiment Nietzsche? Est-ce que c'est la boule à écrire de Hansen? Ou est-ce que c'était sa secrétaire qui l'avait engagée comme intermédiaire à son écriture? Il y a cette intranquillité, ça demande aussi de dépasser l'idée d'un savoir qui est donc qui serait d'un unique producteur, qui viendrait juste d'un génie littéraire ou scientifique, et de considérer que c'est aussi des processus qui nous ont échappé, qui ont aussi échappé à l'auteur de son écriture.
Donc les petites mains font dysfonctionner l'idée d'un sujet pensant, d'un sujet producteur de la connaissance, et très souvent d'ailleurs d'un sujet unique, unitaire, et très souvent un sujet à barbe ou à moustache dans le cadre de Nietzsche. Donc, il y a un dysfonctionnement du sujet producteur de la pensée, si je te comprends bien.
Oui, c'est ça, totalement.
Très bien, merci Margot. Nous avons beaucoup appris sur les petites mains et comment elles peuvent nous faire dysfonctionner aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Scollet, une balade aux diffusions proposée par la Chaire des recherches du Canada sur les écritures numériques. Nous espérons que vous ne retrouverez pas le temps perdu, mais que vous continuerez à en perdre encore. À nous suivant sur scollet.écriturenumérique.ca, SKHOLE écriturenumérique au pluriel.ca, et en écoutant nos prochains épisodes.